Bienvenue ici pour ce colloque peer-to-peer en cette belle matinée. Donc, je vais faire une présentation de bord de girafe. Je vais venir également témoigner en tant que concepteur de jeux vidéo, parce que j'ai monté une société de développement. Donc, girafe, ça veut signifie donc le jeu vidéo et son industrie rassemblent un secteur français. C'est une association qui a été créée suite à la crise de 2002, où en fait, on va dire, depuis ces 18 à 24 derniers mois, il y a à peu près 60% de la profession qui s'y retrouve au chômage. Donc ça fait quand même beaucoup, et en fait, face à cette espèce d'hécatombe, on a voulu se poser des questions, savoir comment est-ce qu'on pouvait rebondir pour faire vivre cette industrie en France, parce que c'est quand même un marché important, 20% de croissance par an depuis maintenant 10 ans, qui continue à avoir cette perspective de croissance pendant encore de nombreuses années. Donc vraiment un secteur très intéressant, une grosse industrie, dont malheureusement, en fait, c'est vrai que j'avais plus l'occasion de venir à la DMI sur le peer-to-peer, et c'est vrai que je veux remercier Ludovic particulièrement aujourd'hui, d'avoir pensé faire venir le jeu vidéo, puisque c'est vrai qu'en termes de piratage, on va dire, il y a 15% des CD de gravés qui sont utilisés pour faire du jeu vidéo. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un jeu vidéo coûte 4 fois plus cher qu'un CD audio. Et donc on se retrouve en fait à avoir le jeu vidéo qui est la plus grosse valeur, enfin chiffre d'affaires de piratage qui est fait, effectif. Donc on se trouve que c'est un secteur qui bizarrement est négligé, bien qu'en étant la première victime. Donc, enfin victime, je vais revenir sur cette notion qui parfois n'est pas toujours évidente. Donc le jeu vidéo a commencé il y a une trentaine d'années maintenant. Ça a au début été un petit espèce de loisir technologique étrange, petit artefact technologique. On voyait les premières consoles, c'était des petits trucs qui s'allumaient à l'écran. Enfin, c'était un petit peu nouveau et petit à petit, c'est vrai que c'est un marché qui a évolué rapidement. Ça a d'abord été un loisir d'enfant avec la console de Nintendo NES qui a, on va dire, beaucoup fait évoluer les choses. Et maintenant, on peut dire que c'est devenu un mass market depuis uniquement 5 ans grâce à la PlayStation 2, où maintenant c'est un secteur d'activité qui touche quand même près de 150 millions de personnes, et même un chiffre en augmentation constante. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de joueurs à travers la planète. Il faut savoir que depuis peu, le chiffre d'affaires des entrées en salle du cinéma est passé derrière celui des ventes de jeux vidéo. Donc culturellement, c'est vrai que c'est un marché qui est quand même très présent, et malheureusement, donc comme je disais, assez récent, ce qui fait que les pouvoirs publics et toute la société n'a pas nécessairement eu l'occasion de prendre conscience de son réel impact. Donc il faut voir aussi en termes culturels que c'est extrêmement intéressant, puisque c'est vrai que c'est un loisir qu'au confluent de tout, c'est vrai que c'est à la fois un loisir, mais bon, c'est quand même au croisement de l'image, du son, de la musique, de la nouvelle, enfin d'une espèce de nouvelle narration interactive, et que en fait c'est quelque chose d'extrêmement bouillonnant à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de créatifs qui s'y planchent, ne serait-ce qu'en termes de musique également. Il faut écrire déjà une nouvelle façon de créer la musique pour qu'elle soit adaptative, puisque en fait un jeu vidéo par essence même n'est pas linéaire. Donc c'est vrai qu'on est face à des nouvelles des nouveaux objectifs artistiques, et c'est vrai que pour ça c'est extrêmement intéressant pour tous de pouvoir voir ce nouveau loisir émerger. Et donc voilà en quelque sorte une présentation du jeu vidéo. Je vais faire un retour rapide sur quelques banalités sur le peer-to-peer pour éviter de passer trop de temps dessus. Donc tout d'abord que c'est un avantage culturel pour tous, évidemment, que en fait c'est le fondement même d'Internet, c'est la connexion d'un PC à un autre, le point à point, et le peer-to-peer, c'est ça, c'est qu'utiliser, je dirais, le fondement, la technologie sur laquelle se base Internet, et que vouloir changer ça, c'est vouloir changer la façon dont Internet existe. Donc pour ça, il faudrait vraiment aller à la base même, revenir sur les fondements de ce système, et est-ce que ça vaut réellement le coup? Parce qu'on sait que, je dirais, technologiquement, c'est très dur et très 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 coûteux, et ça l'est de plus en plus d'ailleurs, plus le temps passe, plus les technologies qui existent ne sont pas faites pour contrôler ces flots de données, et plus on attend, plus ça va coûter cher. Et en fait, le seul système qui, je dirais, est à peu près faisable, c'est d'avoir l'assentiment des utilisateurs, d'avoir des systèmes d'indexation qui existent, qui marchent, et qui permettrait en quelque sorte de voir une utilisation des données qui soit, on va dire, enfin on peut suivre justement la quantité d'utilisateurs qui téléchargent telle musique ou etc. Parce que c'est évident que si on dit aux nouveaux gens « oui mais on a créé un nouveau format qui va devenir payant, ça va être génial, achetez-le tous », c'est évident qu'on leur dit « vous avez le choix entre ça et le MP3 », les gens vont continuer à télécharger du MP3. Donc justement c'est cet assentiment des utilisateurs qu'il faut essayer d'avoir. Il faut voir que c'est une modification de la société qui est présente, que tout le monde s'y met, et que il faut se demander si, parce qu'en essayant de légiférer comme ça de manière très, très répressive, on essaie de faire vivre l'ancien système avec de nouvelles règles, que sont celles du libre-échange, et est-ce qu'il ne faut pas plutôt se demander comment est-ce qu'on va essayer de s'adapter à ce nouveau monde, plutôt que de vouloir faire vivre un ancien monde qui ne correspond pas. Parce qu'il faut voir que c'est vraiment un bien pour tous. Enfin, je vais donner un exemple qui est assez simple, mais par exemple, imaginez qu'on imagine un espèce de petit appareil qui permet, en appuyant dessus, de dupliquer une voiture. On va dire dupliquer une Peugeot, vous êtes content, vous avez une pouf, vous appuyez sur un bouton, vous la dupliquez. C'est formidable pour tous, je veux dire, on serait tous heureux de pouvoir avoir quelque chose comme ça. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il faut interdire cet objet, c'est comment faire un nouveau monde avec cet objet. Donc c'est vraiment le fondement sur lequel il faut réfléchir, c'est pas essayer d'empêcher cette évolution qui est formidable pour tous, c'est évident, mais c'est de voir comment est-ce qu'on peut en tirer parti. Bon, c'est pour ça que je viens aux jeux vidéo qui, depuis toujours, a baigné dans cette culture, on va dire, à la fois du piratage. C'est, je dirais, un des fondements culturels sur lequel s'est basé le jeu vidéo, parce qu'il a toujours été là, et c'est évident que c'est une culture qui ne pourrait pas exister telle qu'elle est actuellement si elle n'avait pas bénéficié de ça. C'est vrai que dès le début, l'état de gens s'échangeait des disquettes, etc. Ça a permis très vite de créer des communautés, ça a permis très vite... Enfin, je veux dire, maintenant, quand on discute avec des gens des jeux il y a 10-15 ans, on connaît tous les mêmes. Et c'est vrai que les réseaux de diffusion ne pouvaient pas assurer une diffusion pareille, et heureusement, les utilisateurs entre eux ont pu faire pour propager cette culture. Et en ça, ça a été extrêmement bénéfique dès les premières heures du jeu vidéo. Donc c'est, je veux dire, quelque chose qui nous a... comment dire, c'est une industrie qui a toujours vécu avec et qui a survécu avec. C'est pas quelque chose qui nous a plombé. L'apparition du peer-to-peer pour nous n'a pas été une nouveauté. C'est vrai que ça n'a pas été une frayeur. Ça a juste été une augmentation d'échelle, en quelque sorte. C'est vrai que c'est ce qui se passe maintenant. N'importe qui peut télécharger des jeux beaucoup plus facilement qu'on pouvait le faire avant. Mais d'un autre côté, c'est aussi le fait d'être devenu grand public, d'avoir beaucoup plus de ventes, qui fait que, bon, finalement, c'est juste une augmentation du nombre, mais qui reste... à peu près dans les mêmes proportions. Enfin, je dirais également... Donc là, excusez-moi, je regarde mes notes. Donc, c'est vrai que sur le temps, en fait, quand on y regarde, ce qui reste d'un produit, enfin, surtout pour le jeu vidéo qui est une culture émergente, c'est pas tant, par exemple, le prix d'un CD ou etc. Sur 10-20 ans, ce qui reste, c'est le produit lui-même. Donc il faut vraiment essayer de faire quelque chose qui supporte l'œuvre. Et le libre-échange est une opportunité formidable. Actuellement, c'est vrai qu'on dit, au sein du milieu du vidéo, c'est dommage qu'il n'existe pas de musée, mais c'est faux. Parce que c'est vrai que quand on regarde, actuellement, il existe énormément de ce qu'on appelle les émulateurs, qui permettent de faire fonctionner, comme les machines d'il y a longtemps, les faire fonctionner sur notre PC, de pouvoir rejouer à des jeux qui existaient il y a 10, 15, 20 ans, dont les machines ont disparu, mais auxquels on peut toujours jouer parce que des programmeurs se sont mis à... faire que ces jeux soient encore maintenant encore jouables. Et en fait, ce système d'émulateur permet d'avoir tout un patrimoine culturel du jeu vidéo, de tous ces jeux auxquels on peut continuer à jouer. C'est-à-dire que toute l'histoire du jeu vidéo maintenant est accessible en quelques clics. Et pour ça, c'est une opportunité formidable. Je veux dire, on garde cette culture, on l'entretient grâce à ces échanges. Et le musée du jeu vidéo, il est sur Internet. Je veux dire, c'est vrai que le jeu vidéo est une œuvre entièrement numérique. Donc en ça, ça enlève moins le fait qu'on puisse, qu'on n'ait pas besoin de présence physique d'un musée. On peut s'échanger comme ça très facilement et continuer à créer notre culture grâce à ces échanges. Donc bon, il faut voir aussi qu'il n'y a pas uniquement des points positifs. C'est vrai, malheureusement, c'est vrai que les utilisateurs n'ont pas toujours la responsabilité d'acheter les jeux, même qu'ils aiment. C'est au sein de la communauté, en général, le mot d'ordre est que si vous aimez vraiment un jeu, il faut l'acheter. Et je veux dire, même sur tous les fichiers qu'on peut voir de télécharger, il y a toujours une petite notice qui est livrée avec par les personnes qui ont rendu accessible ce jeu, qui disent « si vous l'aimez, achetez-le ». Donc il y a vraiment une notion de respect vis-à-vis des auteurs, mais c'est vrai que le problème après, c'est que l'utilisateur, lui, ne va pas forcément l'acheter. Le deuxième risque, c'est qu'il y a un phénomène de concentration qui existe, puisque 10% des jeux font 80% des ventes, et en fait, si tout le monde dit « oui, ça c'est un grand jeu, achetez-le », il y a une véritable concentration du marché, et qu'elle continue et qu'elle est entretenue par la communauté, le problème c'est que les jeux qui, on va dire, ne bénéficient pas de autant d'argent, malheureusement, ne vont pas être achetés, en quelque sorte, ils ont quelques défauts, parce que l'utilisateur, comme il a accès à tout, il peut se permettre d'être beaucoup plus critique. Et en ça, c'est vrai que c'est dur quand on est, par exemple, un petit studio, je parle en tant que petit studio, je sais que je vais créer un jeu, d'un côté, je suis très content du fait que, heureusement, il va pouvoir être accessible, et qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui vont pouvoir y jouer, que ce qu'il y aurait si tous l'achetaient. Mais c'est vrai que je sais que beaucoup d'utilisateurs, par exemple, vont réserver leur budget pour acheter un jeu qui sera bien plus connu et malheureusement n'achèteront pas le mien. Donc bon, c'est des concessions à faire, mais c'est vrai que c'est on va dire, globalement quelque chose de très positif. Dans le jeu vidéo, on a essayé de trouver au fur et à mesure un ensemble de solutions au piratage, tout avec plus ou moins de succès. Bon, il y en a une qui est récurrente, c'est faire des protections contre la copie, qui sont plus ou moins efficaces, enfin, on va dire rarement efficaces, puisqu'il y a toujours moyen de se procurer les jeux sans grande difficulté. Donc c'est cet aspect répressif qui, on va dire, est presque un coup classique, mais en fait c'est surtout dû au fait que dans le jeu vidéo, la durée de vie en magasin est juste d'une durée de 3 mois, et que donc l'idée de faire une copie, c'est essayer d'empêcher de copier le plus longtemps possible pour que les gens décident de l'acheter s'ils doivent attendre une, deux semaines. Des fois on espère qu'ils aient le courage d'acheter avant s'ils n'arrivent pas à attendre la copie. Donc, les différents points qui existent. La première, c'est un système assez intéressant, qui est le système de shareware. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de démo produit qui est gratuite, accessible à tous, que tout le monde peut donc facilement s'échanger. Et si les personnes apprécient cette partie du jeu qui leur a été donnée, elles ont la possibilité d'en acheter l'intégralité. Donc après, c'est un grand avantage. C'est celui d'être en vente directe, soit en ligne, soit, je dirais, par d'autres site intermédiaire qui prendra une petite commission. Et en fait, ce système permet, en évitant beaucoup d'intermédiaires, de gagner quand même de l'argent et d'être rentable. Donc il y a d'autres systèmes qui apparaissent avec, je dirais, tous les jeux jouables en ligne. Donc il y a des systèmes d'abonnement pour certains jeux de rôle en ligne, comme EverQuest, comme Lineage, comme beaucoup de jeux de ce type-là, où justement les gens vont payer un abonnement mensuel et tous ils pourront se connecter dans ces espèces de micro-univers. Et donc le système d'abonnement est intéressant. Il y a un système de vente par épisode, c'est-à-dire, c'est un système qui est assez rare, mais c'est des jeux qui sont vendus 10 euros par épisode en 5-6 épisodes. Et en fait, cette espèce de morcellement du coût fait qu'une personne est peut-être plus à même d'acheter un jeu 10 euros plutôt qu'un 60 euros. Il y a également un système, je dirais, de téléchargement de contenu, c'est-à-dire que c'est. Vous avez une plateforme technologique qui permet de, juste en téléchargeant des petits bouts de contenu, de pouvoir jouer. C'est un petit peu comme Flash, par exemple. Vous avez le lecteur et après vous téléchargez des petits jeux auxquels vous pouvez jouer grâce à Flash. Et donc là, c'est un petit peu le même genre de système, mais en payant. C'est des systèmes qui sont actuellement en train de se mettre en place, en négociation. Enfin, il y a certaines boîtes qui sont en train d'essayer de faire ça. Il y a également donc un système de... Parce que de plus en plus de jeux se jouent sur Internet. Donc il y a une vérification de ce qu'on appelle une clé CD, c'est-à-dire que chaque jeu est vendu avec un numéro, une espèce de numéro de série, et chaque personne qui voudra jouer en ligne va devoir utiliser ce numéro de série pour pouvoir jouer. C'est une protection qui marche uniquement pour le jeu en ligne, évidemment, puisque quand une personne est chez lui, il n'y a pas possibilité de vérifier. Et puis il y a la vente en magasin qui est toujours présente, puisque c'est vrai que l'utilisateur, il a quand même une certaine affection pour les jeux auxquels il joue, donc d'avoir une boîte, d'avoir quelque chose, enfin... un petit artefact physique, quelque chose pour représenter son jeu, c'est toujours mieux que d'avoir un CD gravé qui traîne ou d'avoir une trace sur son disque dur. Donc les joueurs sont quand même attachés à la notion d'aller en magasin et d'acheter, quel qu'il soit. Donc l'une aussi des autres voies, c'est tout simplement la responsabilisation du joueur, de la personne qui achète. C'est vrai que c'est extrêmement important qu'ils prennent conscience justement que cet acte d'achat soit conscient. Par exemple, pour le jeu sur lequel je travaille, pour sa sortie, je vais mettre une petite notice comme ça, enfin pas notice, ça va être donc directement visible dans les pages du jeu, que si vous avez aimé, que si vous avez été intéressé par ce jeu, que vous l'ayez téléchargé, que vous l'ayez acheté, on est très content. C'est vrai que pour nous l'essentiel, c'est que des gens y jouent, enfin, c'est ça le plaisir de la création, c'est de faire partager son œuvre. Mais si vous l'avez vraiment aimé, s'il vous plaît, achetez-le. Mais c'est vrai que je trouve ça plus intéressant d'avoir cette action vis-à-vis de l'utilisateur, que lui soit conscient par son acte d'achat, il effectue un véritable choix, que son choix ait un impact culturel. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment au paroxysme de l'acte citoyen d'achat, où justement on choisit parce qu'on trouve qu'il y a une valeur ajoutée, parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose qui vaut cet achat. Et donc c'est en ça qu'il faut, je pense, beaucoup plus travailler sur l'éducation plus que la répression. Et par exemple, ne serait-ce que dans les cours d'éducation civique, pour les enfants, leur expliquer ce que c'est qu'un auteur, ce que c'est qu'il achète. Parce que c'est vrai qu'on achète un CD, c'est assez nébuleux, c'est depuis peu de temps qu'on se met à parler et qu'on comprend que les interprètes n'ont que 8 à 10 ou 15% d'un CD qui est vendu 15 euros. Donc c'est assez important, je trouve, pour les gens qui puissent comprendre un petit peu Donc une vraie campagne d'information sur la distribution des coûts, enfin des rétributions du travail, est vraiment, vraiment intéressante. Donc en fait, pour conclure, en fait, j'ai discuté avec Tariq hier au téléphone, et en fait, il m'a fait une grande leçon, c'est-à-dire que j'utilisais le mot piratage à tort et à travers, et c'est vrai que finalement je me sens pas tellement dans la peau de Johnny Depp dans le Pirate des Caraïbes, je suis quand même, j'irais plus dans une notion d'échange. C'est ce terme-là qu'il a utilisé que je trouve extrêmement juste, c'est vraiment un échange, c'est un libre-échange. C'est-à-dire qu'on s'échange des données, on s'échange une culture, qu'on partage tous, et en ça c'est vraiment quelque chose de formidable. Et il faut juste avoir cet acte de citoyen d'achat, de rétribution de l'auteur, qui est vraiment primordial et que les gens doivent comprendre. Et en ça, je trouve que c'est vraiment un plus culturel qu'il ne faut pas essayer de contrer, et sur lequel les solutions existent. Bon, c'est vrai que pour le jeu vidéo, c'est du tout numérique, donc on a été confronté très tôt à ces problèmes, mais c'est une évolution vraiment positive, et je pense que pour tous, il faut trouver des solutions qui vont avec cette évolution, plus que d'essayer de la contrer. Donc, voilà.